Alors, bon dimanche à tous. Vous allez bien? Oui, parfait. Donc, ce matin, on peut tourner dans la parole ensemble à Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Et on va commencer au verset 5. Et pendant que vous tournez, je veux simplement vous amener à comprendre un peu de quoi on va parler ce matin. J'imagine que vous vous en doutez. On va parler un peu de l'Esprit de Dieu. Et la raison pour laquelle je veux parler de l'Esprit de Dieu, c'est parce que dans les derniers temps, à l'école du dimanche, avec les ados, on fait un cours qui s'appelle Le seul vrai Dieu. Et dans ce cours-là, on regarde toutes les caractéristiques de Dieu, afin d'avoir des versets. Et le livre est rempli de références bibliques qui nous parlent de Dieu, de qui il est, de ses attributs, et pas simplement, bon, alors Dieu est bon, voici une définition de Dieu est bon, et croyez-le parce qu'on vous le dit. Mais vraiment, il doit avoir environ une vingtaine de références par attribut dans la parole qu'on va trouver ces choses-là, et tous les attributs de Dieu. Et un attribut que j'aime beaucoup de Dieu et qui vient un peu pour moi me rassurer sur qui il est, c'est que Dieu est immuable. Dieu est immuable, il ne change pas. Et Dieu n'est pas simplement l'idée qu'on a parfois quand on pense à Dieu, c'est l'idée du Père, un créateur cosmique, hors du temps, tout-puissant et qui règne de loin et qui tient l'univers en ordre. Mais pour moi, c'est aussi l'idée que Dieu est trinitaire. Donc, les trois personnes de la Trinité sont immuables. Et j'ai pris le temps cette semaine et dans les semaines passées, dans mon temps de prière pour que le Seigneur me montre de quoi je devais parler, je priais. Et plus je priais, plus j'étais attiré dans la parole par des textes qui me parlaient de l'Esprit de Dieu. Mais pas juste des textes dans le Nouveau Testament, des textes dans l'Ancien Testament, où l'Esprit agit d'une façon puissante, où l'Esprit agit avec autorité, où l'Esprit change des vies de façon radicale sans poser aucune question. Et je me suis dit, l'Esprit est immuable. Et comment est-ce que cet Esprit Saint-là, qui travaillait d'une façon tellement efficace dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Et le texte de ce matin est simplement, pour moi, l'annonce de Jésus qui vient résumer tout ça. Et ensuite, on va simplement lire le texte et après, on va regarder à des textes de l'Ancien Testament qui, pour moi, vont révéler un peu comment l'Esprit travaille et comment on doit chercher à être, nous, travaillés par l'Esprit. Donc, Jean chapitre 16, au verset 5, c'est Jésus qui parle, il nous dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur ne viendra pas. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui contrôles toutes choses, ce matin, c'est avec humilité que je veux m'approcher de toi pour t'implorer, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, par ta parole, par tout ce que tu m'as montré à travers ces textes, à travers la prière, Seigneur, de tout ce que tu peux faire dans nos vies, de tout ce que tu veux faire dans nos vies. À quel point tu es un Dieu qui est grand, bon et miséricordieux. À quel point tu es immuable et transcendant, à quel point tu peux vraiment nous amener vers une connaissance de toi qui va nous faire du bien. Nous rappeler, Seigneur, ta grandeur, nous rappeler ta bonté, ta justice, nous rappeler, Seigneur, à quel point tu nous as transformés et à quel point tu travailles dans nos vies. Donc, Seigneur, ce matin, je te prie que tu parles à nos cœurs, que tu puisses nous bénir ensemble pour ta gloire. Amen. Alors, donc, avant de s'en aller plus en détail dans plusieurs textes, l'Esprit-Saint, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donc, ici, on parle de la troisième personne de la Trinité. Et pourquoi je marque ça? Parce que parfois, quand on lit la parole, souvent, l'Esprit-Saint est vu comme une force ou l'Esprit-Saint est vu comme étant impersonnel, il n'est pas vu comme une personne. Donc, parfois, on oublie que l'Esprit est entièrement, totalement, à 100% Dieu et non un outil que Dieu utilise. L'Esprit est Dieu autant que le Père est Dieu, autant que le Fils est Dieu. Il ne peut pas être moins, sinon il n'est pas Dieu. Comprenez? Et je le mets ici parce que pour moi, c'est très important, car ça va changer beaucoup de choses quand on regarde comment l'Esprit travaille dans nos vies. Ensuite, l'Esprit est souvent décrit comme celui qui révèle les choses, les secrets, les choses cachées. Dans l'Ancien Testament, quand un prophète recevait une révélation de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui venait et qui lui révélait quelque chose. C'est l'Esprit qui parle à nos cœurs. C'est l'Esprit qui avait la job, si on veut, de nous convaincre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous parle dans ce texte. C'est l'Esprit qui révèle les choses cachées. Ce n'est pas le Fils, ce n'est pas le Père. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle toutes les choses cachées. Ensuite, c'est aussi un sceau. Vous avez été scellé par l'Esprit. Vous n'avez pas été scellé par, bien sûr, par la lecture de la Bible, par une prière, par peu importe ce qu'on fait dans nos étapes vers la compréhension. Nous sommes scellés par l'Esprit. L'Esprit qui est celui qui nous révèle les choses cachées. Et l'Esprit qui est aussi Dieu. Et l'Esprit est l'auteur de la régénérescence. Gros mot, payant Scrabble. Qu'est-ce que... Ma mère a dit non. OK. Qu'est-ce que la régénérescence? C'est quoi ça? Régénérer quelque chose. La régénérescence, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est mort, on lui donne vie. On régénère quelque chose qui n'a pas de force, on lui donne une force. Quelque chose qui est brisé, on le régénère, on le répare. Et c'est l'Esprit qui a ce travail-là dans nos vies. Et ce travail-là de l'Esprit-Saint, Paul le résume avec cette parole qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais par Christ, l'Esprit nous régénère, nous redonne vie. » Par Christ qui a tout accompli et l'Esprit qui régénère. On va regarder ensemble. Avant la croix, pourquoi est-ce que je vous parle de l'Esprit-Saint ce matin, quand la plupart d'entre vous, vous savez déjà tout ce que j'ai dit, vous le savez. Pourquoi j'en parle? Car il y a plusieurs textes dans la Bible qui montrent l'Esprit qui travaille. Et je ne le vois pas dans ma vie souvent. J'oublie à quel point Dieu fait plus que je pense. Et à quel point l'œuvre de Dieu, elle est complète et parfaite. Si vous tournez dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, on voit Dieu qui communique. On voit Dieu qui dit quelque chose à son peuple. Et j'avais plein de références pour vous, mais ce n'est pas là. Et l'Esprit avant la croix, dans le fond, était simplement celui qui communiquait, on l'a parlé. C'est lui qui parlait aux prophètes, c'est lui qui donnait la puissance, si on pense à Samson, Samson était probablement 5 pieds puis pas très gros, mais c'était l'Esprit de Dieu qui lui donnait sa puissance. Et on voit aussi le point, je l'ai skippé vraiment vite, s'il y en a qui prennent des notes. Il y avait trois rôles principaux avant la croix, mais la raison pour laquelle je veux vous parler ce matin, c'est l'Esprit change des choses. Et, j'ai été un peu trop vite, si on tourne dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, on a une révélation de Dieu qui nous parle de comment est-ce qu'il va agir. Comment Dieu veut agir. Et j'en parle pratiquement à chaque fois que j'ai la chance. Et donc, si on tourne dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je vais commencer au verset 23. C'est l'Esprit qui nous parle, qui nous dit « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ici, on parle d'un changement de cœur. Comment Dieu change mon cœur? Comment est-ce que Dieu a changé mon cœur? Il m'a donné l'Esprit. Et l'Esprit ne fait pas seulement changer mon cœur, il me transforme et me donne la capacité de faire une chose qui est impossible à l'homme. Je vais suivre les ordonnances de Dieu et observer ses lois. Pas simplement une loi faite par l'homme, la loi de Dieu, qui est impossible à l'homme. Jésus a résumé toute la loi en une phrase rapide. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai failé les deux. Constamment. Pas parce que j'essaye. Parce que je suis juste pas bon. Vous savez, dans le monde, plus j'écoute la radio, plus je deviens un peu amorphe. Mais plus j'écoute les gens qui disent « Fondamentalement, on est bon. On est capable, si on s'y met, là, d'être bon, d'être uni. » Et dans le monde, on est capable de dépenser des milliards de dollars pour aller chercher de l'eau sur Mars, puis on n'est pas capable d'amener de l'eau en Afrique. Moi, je capote. Mais les hommes pensent que fondamentalement, ils sont bons. Et Dieu, dans sa parole, pas moi, là, Dieu, dans sa parole, dit, on a des cœurs de pierre. Ça vous prend un nouveau cœur. Pas une transplantation, comment ils disent ça, là? Pas une transplantation, pas non plus un cœur en plastique, pas les technologies, non. Un cœur changé, pas par le meilleur médecin du monde, par Dieu. Un cœur dans lequel Dieu va mettre son esprit. Et son esprit n'est pas un esprit de peur, de timidité. C'est un esprit de puissance qui vient changer un croyant à 100%. Ça le vire de bord. Ça le purifie. Et qui fait cette œuvre? Le croyant, quand il fait sa prière de repentance? Ou un Dieu infaillible, immuable, tout-puissant, transcendant, nommez-les toutes. Je peux vous donner la réponse, là? C'est Dieu. Allez pas chez vous en vous le demandant, là. C'est Dieu. C'est Dieu qui doit transformer ma vie en premier, votre vie et la vie de tous les croyants autour de nous. Le deuxième point, si vous allez le chapitre d'après, Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce texte-là. Je vais vous en donner une que je veux qu'on l'applique. Je veux qu'on applique ce texte-là à nos vies, à notre évangélisation. Car l'Esprit travaille et il fait quelque chose de plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Ézéchiel 37, 1 à 10 nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Donc, on se met en contexte ici, on a Ézéchiel, que Dieu le prend, il l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Le Seigneur est bon avec Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée remplie d'os, pas juste des os secs. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils sont là, sont secs, sont finis. Il n'y a plus rien à faire avec ça, tu ne peux même pas t'en servir, te faire une arme, il va casser. Aucune capacité, aucune utilité et probablement aucune beauté. À moins que vous étudiez le squelette humain, là, ça ne vous sert à rien d'être là. Et j'aimerais vous amener à réaliser la question que Dieu pose à Ézéchiel et la réponse d'Ézéchiel. Donc, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répond, « Seigneur, tu le sais. » Il est wise, lui. Il est wise. T'sais. Pas « oui, Seigneur, tu peux tout faire, je le sais. » Non, « tu le sais, Seigneur, parce que moi, je ne veux pas m'avancer. » Et ces os pourront-ils revivre? Question pour moi qui est un peu drôle. Moi, j'aurais répondu, « Oui, Seigneur, ça peut revivre, je le sais. J'ai lu Genèse 3, là, où tu prends un, Genèse 2, où tu prends de la poussière puis tu fais un homme. Des os, c'est facile. » Et Ézéchiel, non, tu le sais, Seigneur. Fais attention à sa réponse. L'Éternel dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais et voici l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit, viens, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ce texte est extrêmement intéressant. Et je vous ai parlé que je voulais qu'on l'applique à notre évangélisation. Car peu importe notre efficacité à parler de la croix, à démontrer à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu veut changer nos vies, à quel point Dieu veut vraiment faire de nous des adorateurs. C'est impossible à l'homme de croire si l'Esprit n'est pas en eux. Et cet Esprit-là, c'est les croyants qui doivent l'envoyer. C'est Jésus qui nous donne cette capacité-là d'annoncer, d'implorer l'Esprit, d'entrer dans les gens. Et moi, si je sors d'ici et que je dis, Dieu, garde ton esprit, j'en ai pas besoin, m'a évangélisé tout le monde, je m'en vais dans le milieu de la rue, je prends ma Bible, je monte sur un petit tabouret pour être un peu plus grand que les autres, puis là, je commence à se clamer haut et fort que Jésus est le Christ, que par sa mort à la croix, on a tous le pardon des péchés, on a la capacité d'entrer en relation avec Dieu et qui peut changer ma vie, suis probablement mort dans les 5 prochaines minutes, dépendant je suis où dans le monde. Mais l'Esprit Saint régénère. Et dans le texte, il y a deux parties à cette régénérescence-là. Excusez. Il y a deux parties. La première, une préparation. Un travail qui est fait. Ça ne devait pas être beau, là. Il y a un paquet d'os. Prophétise et dis-leur. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vais mettre en vous un esprit. Ça devait être beau, là, tu sais. Des os. Tu entends un bruit, là. Devait être spécial. Et j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un paquet d'os, des nerfs et de la chair, c'est vivant? Non. Ça fait combien d'années, j'en ai aucune idée, ça fait combien d'années qu'ils essayent de faire de la peau artificielle? Seigneur, ça y prend 5 secondes. Même pas. Et on a ici, selon moi, un travail, une préparation faite par Dieu pour donner vie à quelqu'un. Mais est-ce que ces corps, c'est des corps, est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que par ma force, je peux donner vie à ces corps-là? Est-ce qu'un croyant, aussi bien intentionné soit-il, peut changer quelque chose? Est-ce que c'est plus facile de prendre un mort et de l'obliger à faire un pas par lui-même, sans aucune aide extérieure, que c'est facile d'y en faire 1000? La réponse, c'est non. C'est pas plus facile. C'est impossible. Il est mort. Et la puissance de l'esprit régénère. Parle à l'esprit. Dis à l'esprit, viens, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et parfois, dans nos vies, on n'a aucune connaissance de ça. Mais l'Esprit Saint vient dans notre vie et nous parle. Si vous avez accepté le Seigneur, l'Esprit a travaillé en vous avant que vous ayez même la plus petite et infime compréhension de ce que Dieu pouvait faire pour vous. C'est Dieu qui vous a amené à réaliser ces choses-là. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Et Jésus nous dit la même chose dans Jean 16. Il dit, c'est l'Esprit qui va venir convaincre le monde de péché, de justice. Et le dernier que j'ai oublié parce que je suis stressé. Jugement, merci. Donc, c'est l'Esprit qui travaille dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui fait qu'on est vivant. Mort, où est ton aiguillon? Si j'ai l'Esprit en moi qui me travaille et qui me parle et qui me donne vie, la mort n'a aucun pouvoir. Et ici, c'est une mort que j'appelle spirituelle. Ici, on a du physique. Dieu peut donner la vie à un cadavre. Oui, il l'a fait. Jésus a ressuscité des morts. Mais la plus grande vie, la plus grande régénération que Dieu doit faire dans vos vies, dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes que vous évangélisez, c'est de leur donner une vie spirituelle. Et c'est la job de l'Esprit-Saint de faire réaliser ces choses-là. Et c'est Christ qui a tout accompli à la croix. Et c'est le Père qui vient mettre son sceau, qui envoie l'Esprit et qui nous permet d'avoir cette complète confiance en Dieu. Voyez-vous, la Trinité est toujours toute impliquée. Mais cette idée de régénération, c'est l'Esprit qui vient. Et dans notre évangélisation, ici au Cap ou partout dans le monde, c'est l'Esprit qui va et qui prépare. C'est l'Esprit qui défonce des portes, qui défonce des cœurs, qui avance et qui change le monde. Et puis, on a des petits prédicateurs qui regardent le chemin que l'Esprit fait, puis qui suivent, puis qui parlent, puis les gens comprennent, les gens sont sauvés. Il y a des vies qui sont changées, des gens en dépression qui se relèvent, qui vivent, des gens qui sont pris dans l'enfer du péché, qui sont détruits. Dieu leur donne une vie. Ce qui est impossible pour un croyant, aussi bien intentionné soit-il, Dieu travaille. Dieu régénère. Dieu change le cœur. C'est tout Dieu et nous, on tombe à pleine face et on l'adore.
Dans Jean 16, Jésus appelle l'Esprit le Consolateur. Pourquoi le Consolateur? Parce que, selon moi, l'Évangile est la chose la plus difficile au monde. C'est la chose la plus difficile à croire, à comprendre et à vivre. Et j'aimerais demander pardon à tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui pensent que ça va être facile. À tous ceux qui se sont fait amener à croire que Dieu allait régler tous leurs problèmes. J'aimerais m'excuser à tous ceux qui pensent que de venir ici à l'Église va faire que Dieu les aime plus. J'aimerais aussi nous amener à réaliser que l'Esprit-Saint est celui qui console nos cœurs. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes parents, même si les mères font un excellent job de support, là. Non, c'est vraiment l'Esprit qui va changer votre vie, qui va vous consoler, qui va vous amener à être vraiment capable de le vivre. Combien de croyants abandonnent la foi parce qu'ils sont détruits, parce qu'ils sont brisés, parce qu'ils pensaient que ça allait être facile, parce qu'ils ont vécu quelque chose de dur, ils ont combattu le péché, ils ont essayé de toute leur force, puis ils ont été en échec. Ils se sont virés de bord, puis ils ont dit « c'est n'importe quoi », puis ils sont partis. Combien de nos frères et sœurs ont été mentis à combien se sont fait mentir à dire que ce serait facile puis que tout s'enlèverait? Je ne veux pas le savoir. Mais c'est lui qui console et c'est son travail. Et c'est mon travail en tant que croyant d'implorer l'Esprit de les consoler, d'aller les chercher, de raviver une flamme qui était là. Quand ça ne va pas bien, c'est ma job de me lancer au pied de la croix. Comme dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient dans le trouble, ils partaient, ils s'en allaient devant l'autel de Dieu, ils prenaient les cornes puis ils disaient « Éternel, sauve-moi! » devant Dieu lui-même, on implore « Sauve-moi, protège-moi, aide-moi, change-moi. » Non, on ne fait pas ça. Je ne sais pas. Mais c'est l'Esprit qui doit le faire dans chacune de vos vies, dans ma vie en premier. Si on va à Actes, chapitre 1, verset 8, l'Esprit-Saint est appelé une puissance. Vous recevrez une puissance. Et question simple, est-ce que l'Esprit est puissant dans votre vie? Est-ce que l'Esprit de Dieu est une puissance dans votre vie? Et je vous rappelle que je ne parle pas ici d'une force. On parle de l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, le Dieu Tout-Puissant, celui qui change des vies, celui qui régénère, celui qui change le cœur, celui qui console. Est-ce qu'il est puissant dans votre vie ou il est absent de votre vie? Parfois, je vois des croyants, je rencontre des croyants dans le temps où je parlais, où j'avais plus de temps et où c'était un peu plus dans mes tâches. Mais je parle à des gens et ils disent « Ah, il me semble que ma vie est dolle. J'ai pas de, y a pas de puissance. Quand je lis la Bible, c'est fade. Quand je viens à l'église, c'est le fun. Je chante des chants, j'écoute des prédications, mais les prédications ne me parlent pas. Quand je parle de l'Évangile, il me semble que c'est... Il manque quelque chose. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là? Moi, oui. Oui. Et cette puissance-là, quand on regarde dans l'Ancien Testament comment l'Esprit travaillait, tout le monde, je suis sûr, vous pouvez vous rappeler une histoire dans l'Ancien Testament où l'Esprit saisit quelqu'un et lui fait faire quelque chose d'impossible. Avez-vous déjà essayé d'arracher la porte d'une ville avec vos mains? Oui, j'ai essayé. Je suis niaiseux de même. Ça ne marche pas. OK? Avez-vous déjà essayé d'aller vous battre à 300 contre 10 000? Pas comme dans le film, là. Avez-vous essayé?
Non, pas moi. Avez-vous essayé d'aller prêcher à une nation pécheresse comme Ninive? Avez-vous essayé de vous sauver de la job d'aller prêcher à Ninive? Hein? Ça oui, moi oui. Avez-vous déjà imploré l'Éternel de montrer sa puissance en vous sentant seul, entouré d'ennemis comme Élie? Avez-vous essayé d'aller vous battre comme Jonathan avec son porteur d'armes et de dire « On va y aller à deux » puis on va dire « Hey, avez-vous telle personne ou telle chose se passe-t-elle? » Et s'ils nous répondent par l'affirmative, eh bien, allons-y, car Dieu nous donne la ville. Ce sont deux. Ils vont attaquer une ville. Et il pose la question, répond par l'affirmative, prend son épée, puis il va, il tue tout le monde. Avez-vous essayé? Non, vous seriez probablement interné, vous ne seriez pas ici. OK? Mais c'est cette puissance-là. Et souvent, on pense à l'Ancien Testament et on se dit, ah, ça, c'est dans le temps, là. C'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est... Tu sais, c'est l'Évangile, c'est l'amour, c'est la prédication d'un Dieu d'amour, c'est la prédication de Christ qui pardonne nos péchés. Mais Dieu n'est pas un Dieu impuissant. Dieu n'est pas un Dieu qui veut faire de ses croyants des gens qui vont connaître leur verset par cœur, puis qui vont arriver avec un programme préétabli. De là, il me dit ça, je réponds tel verset. Puis là, il s'en vient, il contre-attaque par l'amour. Et puis là, il ne faut pas que je parle trop de l'esprit, parce que je vais avoir l'air bizarre. Fait que je vais y aller détourner. Hein, il montrait vraiment que Dieu l'aime, mais qu'en même temps, il faut qu'il se repente de ses péchés. Mais là, je n'utiliserai pas le mot péché, parce que ça va l'offusquer. Fait que je vais utiliser comme tes manquements. Ou je vais utiliser d'autres mots. Et puis là, s'il ne comprend pas comme ça, ben c'est pas grave, je vais envoyer quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est moi, puis c'était pas mon appel qu'il soit sauvé. Fait que je vais envoyer Michel ou je vais envoyer Jonathan, je vais envoyer ma femme. Ben, ça va être plus facile, elle est plus douce. Mais vous riez, hein? Mais aucune puissance dans ce que je viens de dire. Aucune. Nada. Niet. Il y a beaucoup de vérité, mais il n'y a pas de puissance. Je peux vous expliquer qu'est-ce qu'un AK-47? Je peux vous l'expliquer. Je peux vous dire les parties. Je peux même vous le montrer, le tenir. Mais si je ne mets pas de balle dedans et que je ne tire pas, je ne ferai aucun dommage. OK? Et si je mets la mauvaise balle dedans, ça ne fera rien. Peut-être, j'imagine. OK? Mais vous comprenez mon point ici? S'il n'y a pas de puissance, même dans la plus grande vérité, ça ne donnera rien. Le monde ne veut pas de la vérité. Okay? Ce n'est pas parce que vous avez raison que les gens vont vous écouter. Ce n'est pas parce que vous avez le bon verset que la personne va se repentir. Okay? Ce n'est pas à cause de vous. L'esprit doit travailler puissamment. Il doit être une puissance, il doit consoler, il doit régénérer et doit changer le cœur. Et c'est aussi un message. Quand l'esprit vient dans la vie des apôtres, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 12, ils ont en bon québécois, la chienne, ils sont cachés au deuxième étage d'une maison, la porte est barrée, ils shakent dans leurs bobettes, s'ils ont des bobettes, ils se demandent ce qui se passe. Et là, mettez-vous dans leur tête, là. OK, Jésus est parti, il m'a dit, « Allez, et je vous enverrai une puissance. » Quelle puissance? « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu m'enverrais de la puissance, là, je shake. » J'ai peur, ils veulent me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, l'esprit vient. Qu'est-ce qui se passe? Ils sortent toutes dans la rue. Un message. Un message. C'est quoi le message? Repentez-vous, car Dieu est prêt à vous pardonner. Repentez-vous de vos péchés, car Dieu est prêt. Tout est accompli. Vous avez manqué le bateau, j'ai manqué le bateau, on a tout été dans le champ. Les disciples, parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir établir le royaume, puis ils s'astinaient pour savoir qui allait être le premier. Tous les Juifs qui l'ont crucifié parce qu'on vient de crucifier le Messie. Tout le monde qui s'en foutait parce qu'ils s'en foutaient. On est tous dans le trouble. Le message, c'est « repentez-vous ». Et si je dis ça à quelqu'un sans l'Esprit qui travaille en lui, il va rire de moi. Si je dis ça à quelqu'un sans l'Esprit qui le travaille, il comprendra rien. Rien avec un G, c'était pire. OK? Il comprendra rien. OK? Et le message est porté par des croyants, par vous, par moi. Mais le message vient de l'Esprit. Le message vient de l'Esprit qui vous l'a montré. Le message vient de l'Esprit qui vous l'a, qui a fait que vous avez été capable de vous l'approprier. C'est correct de comprendre l'Évangile, que Christ est mort pour mes péchés à la croix, que par sa résurrection j'ai la vie, et que par ça tout est accompli, que le Père me pardonne toutes choses, et que la justice est accomplie, que maintenant j'ai un plein accès à Dieu. C'est bon, c'est bien, vous pouvez même le dire avec des versets cités. Mais je connais des gens qui peuvent vous le dire, qui sont musulmans, qui ont renié Dieu, et qu'ils connaissent ça, oui, ils risent de ça gros comme le poing, parce que l'Esprit n'est pas en eux. Est-ce qu'il y a une capacité d'apporter un message qui parle de Dieu sans Dieu? Si vous tournez dans Ézéchiel 36, est-ce que Dieu dit, quand vous allez faire toute votre partie, là, moi je vais faire ma job? Est-ce que c'est ce que Ézéchiel 36? Allez le lire. Si vous le trouvez comme ça, ben changez votre Bible. Mais c'est pas ça que ça dit. C'est Dieu dit, je travaille. Je travaille. Aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, ça change quoi dans ma vie? C'est quoi le rôle de l'Esprit dans le croyant? On l'a déjà dit, l'Esprit est un sceau qui vient sceller chacun d'entre nous. Et son rôle dans le croyant, si vous avez votre Bible et que vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, vous n'allez rien comprendre. C'est l'Esprit qui vient confirmer la parole. C'est l'Esprit qui vient l'éclairer. C'est l'Esprit qui vient changer des versets qui ont l'air compliqués, difficiles, qui vient vous permettre de les comprendre et de les appliquer. C'est l'Esprit qui vous pousse à parler aux bonnes personnes. C'est l'Esprit qui vient vous convaincre quand vous partez sur une voie tortueuse, qui vous dit « Non, non, reviens ici, pas par là. » C'est l'Esprit qui vous pousse à prier. C'est l'Esprit qui vous pousse à vivre. Et combien ici savent comment manier l'Esprit? Qui sait comment manier l'Esprit? Qui sait comment vivre par l'Esprit? Qui a passé des heures à implorer à genoux Dieu de se révéler à lui jusqu'à ce que Dieu vienne? Qui a été touché par l'Esprit au point d'être totalement rempli de lui et de comprendre encore plus? Qui s'est posé une question sur un texte difficile et qui a prié jusqu'à ce que Dieu lui montre, l'amène au bon commentaire, l'amène à la bonne compréhension? Qui a prié à genoux avec des pleurs pour que son fils ou sa fille soit régénéré et sauvé? Qui a manié l'Esprit? Et je vous implore de trouver dans votre vie un moment où vous avez fait ça, premièrement pour vous. Implorez l'Esprit dans ma vie, une puissance qui fera que le chrétien qui est moi, peut-être un peu dol, un peu tanné, qui a, je me semble, j'ai déjà lu ce texte-là, et chercher et être transformé, être amené à comprendre plus, voir plus, aimer plus, ressembler à Christ plus. C'est le rôle de l'Esprit. Pas juste de la Bible, de l'Esprit en vous.
Et s'il y en a qui disent, moi, je me semble que je n'ai pas l'esprit, bien, vous êtes dans le trouble. Si vous pensez que l'esprit, c'est quelque chose pour les spéciales ou pour les flyers, non, on l'a vu. Qui sauve? Qui vous a convaincu? C'est l'esprit. Et si dans votre vie, vous ne voulez rien savoir de l'esprit, parce que c'est dur de suivre l'Esprit Saint de Dieu, c'est dur de faire ce qu'il dit, c'est pas facile, je m'excuse si vous avez cru que ça allait être facile, c'est dur, mais ça vaut la peine. Si vous ne comprenez rien quand vous lisez votre Bible, mettez-vous à genoux tout de suite. Implorez Dieu de vous le montrer, de se révéler à vous, de vous transformer. C'est sa job. Puis nous, on prend l'esprit, puis on dit, ben non, ça c'est pour les flyer. Puis on y va, puis là, j'essaie de prendre ma Bible puis de comprendre. Combien ici ont un quiet time? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Un temps seul avec Dieu, pardon, le matin. OK. Maintenant, qui, après avoir fait ça, continue à faire son temps seul avec Dieu pendant la journée? Parce qu'il y a des croyants qui prennent ça, c'est comme une pomme par jour éloigne le médecin, là. Ben, un verset par jour éloigne le diable. C'est pas vrai. S'il y a quelqu'un qui connaît sa Bible par cœur, c'est Satan. S'il y a quelqu'un qui va vous la détourner et vous faire comprendre ça tout croche, c'est lui. Qui va vous protéger? Qui vous protège? Pas moi. Pas moi, puis demandez-moi pas de vous protéger. Ça sert à rien. OK? C'est pas moi, c'est pas votre papa, c'est pas votre maman, aussi puissant soit-il. C'est l'Esprit. Donc, est-ce que vous êtes conscient de toute son importance? J'imagine que oui. Mais ce matin, je veux le proclamer haut et fort que c'est sa job. Et que si vous vous fiez à autre chose, eh bien, vous ne vous fiez pas à la bonne chose. Ça peut être bon, mais ça ne sera pas divin. Okay? Son rôle dans l'évangélisation, on en a parlé. Je résume. Son rôle dans l'évangélisation, c'est qui convainc le monde de péché? C'est l'Esprit. C'est qui change le cœur? C'est l'Esprit. C'est qui donne vie à un mort? C'est l'Esprit. Vous avez beau le kicker aussi fort que vous voulez, un cadavre reste un cadavre. OK? Le rôle dans l'évangélisation et les croyants qui ont un ministère d'évangélisation sont habités par l'Esprit. Les croyants qui veulent toucher leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs pères, leurs frères, leurs amis, le monde, sont habités par l'Esprit. L'Esprit les change, les transforme. Et des fois, on dit une niaiserie qu'on pense que c'est banal. Puis là, pouf, tout le monde comprend. Puis là, on dit, voyons donc. Comment ça, c'est ça qui fait que tu te décloches? Tu comprends pas? Ah, j'avais besoin de savoir ça. J'ai déjà vu quelqu'un se repentir et aller à Dieu, donner sa vie pendant que quelqu'un prêchait sur des généalogies. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque généalogie, c'était... Il naît, le gars il naît, il vécut tant d'années et il meurt. Il retourna au ciel. Il naît, vécut tant d'années, il eut tel enfant, il meurt. Là, il dit, hey, je vais mourir. Il s'est repenti puis a donné sa vie à Dieu, devenu un évangéliste. Hey, qui veut que je prêche sur une généalogie? Personne. Lui, c'est ça qu'il avait besoin. C'est l'esprit. Aïe, aïe. C'est l'esprit qui travaille. Sa puissance dans le salut. Qui s'y pense que le salut... C'est une prière qu'on fait pour se repentir. Je vais vous lancer ma manette. C'est pas vrai. Mais c'est pas ça. Il y a l'Esprit qui vient travailler. Et là, tout ce qu'on a vu, là, il fait. Il vous régénère, vous comprenez, vous êtes attiré, vous vous posez des questions. Il change votre cœur, vous comprenez. Vous êtes transformé, vous grandissez. Et là, vous faites, Seigneur, merci. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de toi. Tu m'as changé, tu m'as transformé. Et maintenant, je suis une nouvelle création. Toutes choses passées sont passées. Maintenant, je cours vers le but. C'est quoi le but? Ressembler à Christ, rester proche de Christ, adorer Dieu, le chercher, l'aimer, trouver. Et sa puissance sur le péché. Si vous avez du péché dans votre vie, combattez-le pas par votre chair. Si vous combattez par la chair, vous allez récolter, oui c'est ça, vous allez récolter la chair. J'ai beau me forcer autant que je veux pour ne pas avoir des pensées mauvaises pour mes ennemis. J'ai beau me forcer à ne pas frapper les gens qui m'énervent. Jésus me dit, si dans ta tête, tu les frappes, ça compte pareil.
Là,
comment je fais d'abord? Et pour les hommes, ben peut-être les filles, je ne sais plus, mais les hommes aujourd'hui, si je me force à ne pas regarder des affaires pas correctes de femmes, de la pornographie, j'essaie de ne pas aller dans les magasins, faut que je marche comme ça avec des œillères, j'essaie de faire tout mon possible pour éviter toutes les tentations, puis que là, dans ma tête, j'ai un bug de cerveau, je fais, comment je fais pour me battre? J'ai perdu d'avance. C'est donc mes poches. Moi, je suis un gars, j'aime ça, à bataille, j'aime ça penser à me battre puis être fort. Mais je perds tout le temps. Comment ça se fait? Parce que je me bats pas par la seule chose qui peut battre le péché. Qui est plus grand que le péché? Vous le savez, là, réveillez-vous. Je finis dans 30 secondes. Qui est plus grand que le péché? Qui? Je vous ai endormi bien raide. C'est l'Esprit qui est plus grand que le péché. C'est lui qui vient vous sceller. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous le montre. L'Esprit le fait. Mais comment il le fait? Ben, si vous n'avez aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, vous êtes dans le trouble. Si vous n'avez aucun temps de prière, ça ne marche pas. Si moi je fais ça, je suis fini. Encore pire. Parce que je parle en avant. Je suis fini. OK? C'est quoi son rôle? C'est lui qui a la puissance. Moi, je vous le montre là en passant. Mes doigts sont gros là. C'est lui qui a la puissance de vous délivrer de tous vos péchés. Pas de la tentation. Pas de l'ennemi qui va vous attaquer tout le temps. C'est pas lui qui va vous délivrer non plus des conséquences de quand vous péchez. C'est pas lui. Lui va vous garder de tomber quand vous allez vous battre. Et c'est lui qui va avec joie vous donner la conséquence de votre péché. Pensez pas que Dieu va vous sauver puis que vous n'allez pas avoir les conséquences de vos péchés. Si vous vous êtes fait enseigner ça, je m'excuse, c'est pas vrai. Vous allez vivre les conséquences de vos péchés, mais l'Esprit va vous garder et vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vous décourager, vous allez avancer. Et pour finir, quelle est l'importance de l'Esprit dans ma vie? J'espère que j'ai fait mon point. C'est important. La puissance de l'Esprit agit dans un esprit rempli de la parole. Remplissez votre tête de Bible. Pas de sport. C'est pas grave les pointages du Canadien, les gars. OK? Remplissez votre tête de Bible. C'est pas grave la décoration, mesdames. Là, je parle à ma femme. OK? C'est pas grave le reste. Ça, c'est important. OK? C'est pas grave. Remplissez votre tête de la Bible et remplissez votre cœur de Dieu. Laissez-le agir et vous allez voir que tout va changer dans votre vie. Parce que c'est sa job à l'Esprit de vous diriger, de vous amener à aimer plus. Et ce matin, j'invite tous ceux et celles qui luttent à arrêter de lutter et à laisser l'Esprit agir en eux. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous n'avez pas le sceau, vous êtes dans le trou. C'est ma job de vous le dire, c'est la job de l'Esprit de vous convaincre, mais il y a des gens qui peuvent vous parler, vous devez aller à Dieu, vous devez aller à Christ, vous devez lui confesser tous vos péchés, lui donner vos fardeaux et lui faire confiance pour le reste. Prions. Seigneur, on veut simplement s'approcher de toi. Te remercier pour ta grâce sur nos vies. Te demander de nous toucher encore par ta parole. On demande que tu puisses nous aider à être obéissants à l'Esprit. Je t'implore, Seigneur, de mettre ta main sur tous et chacun ici afin qu'on puisse être délivrés lorsqu'on tombe en tentation. Qu'on puisse comprendre et chercher à te connaître. Qu'on puisse aimer ta parole. Aimer nos prochains, qu'on puisse te faire confiance, Seigneur, faire confiance à ton esprit. Seigneur, change-nous, transforme-nous encore plus afin qu'on te ressemble. Donne vie à nos cœurs qui parfois sont tellement desséchés. Aide-nous à sortir de la vallée de l'ombre de la mort et à s'approcher de toi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et merci pour ton salut. Maintenant, aide-nous à travailler fort afin de te ressembler. Aide-nous à nous approcher de toi par l'Esprit, Seigneur. Aide-nous à rechercher ton Esprit. Seigneur, permets-nous d'avoir assez soif de toi pour te chercher jusqu'à ce que tu viennes. Bénis-nous ensemble, Seigneur, et bénis ton Église partout à travers le monde, afin que tu sois glorifié dans nos vies. Dans le nom de ton Fils Jésus et par sa victoire à la croix, nous te prions. Amen.